Louis Albran a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous retrouvons Louis Albran. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui parmi nos hauts alpins qui ont marqué l'histoire. D'un grand savant, du Briançonnais. Je veux parler de Horence Fine. Ceux qui, comme moi, étaient élèves au lycée de Briançon dans les années 60, hélas, se souviennent du sévère et redoutable professeur de mathématiques de la classe de seconde que nous appelions Monsieur Maccabi. Bien que pour la plupart, aux Alpins, nous ignorions à l'époque que certains des outils mathématiques qu'il essayait de nous inculquer avaient été inventés au XVIe siècle, à l'époque de François Ier, par un homme né à quelques kilomètres de notre lycée climatique d'altitude, à Villars-Saint-Pancras. Petite commune de 1500 habitants, dont le maire actuel, d'ailleurs, s'appelle Sébastien Fine. À l'époque de la naissance de notre génie des mathématiques, on l'appelait Villarus Sanctus Pancratius. Aujourd'hui, une école à Briançon, rue Pasteur, porte le nom de Horence Fine. Alors, qui était Horence Fine ? Il provient d'une famille très ancienne. François Fine, son père, était médecin à Briançon et s'intéressait, chose importante, déjà à l'astronomie. La maman était Charlotte de la Tour de Villars, Saint-Pancras. Charlotte, donc, de la Tour de Villars, Saint-Pancras. Le père, mort assez jeune, était déjà, on l'a dit, passionné par les étoiles, les astres, le mouvement des planètes. L'oncle était un des notaires importants de Briançon, dont une famille de la bourgeoisie, des notables de Briançon. Très jeune, Horence est mis en pension à Paris grâce à l'appui d'un ami de la famille et aussi au fait que ses notaires, ses notables, ses médecins avaient quelques moyens. Alors, l'ami de la famille était un Briançonnais, Antoine Sylvestre, nom bien connu du Briançonnais, aujourd'hui existe encore, professeur au collège de Navarre, le grand collège auquel avait étudié, on le sait, Henri IV, ainsi que le grand Lesdiguières. Il était aussi professeur au collège Montaigne, qui se trouve sur la place du Panthéon, à côté de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Quelques années avant l'entrée d'Horence, Érasme, le grand humaniste de la Renaissance, y avait étudié. C'est dire le prestige de ce collège. Et c'était vraiment une opportunité, une chance. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité des chances, donc Horence Fine avait déjà accès à cette possibilité de s'instruire, ce qui était assez rare, hélas, pour les enfants de nos vallées, notamment les enfants des paysans. Dans ses colloques, Érasme précise que cet établissement ne négligeait pas les pauvres, et il insiste sur la cruauté avec laquelle on fustigeait les écoliers. Rabelais, qu'il a fréquenté, l'appelait aussi le collège de Pouillerie, car les conditions de logement des internes n'étaient pas excellentes. Jean Calvin, Jean Knox, d'autres grands esprits du XVIe siècle y furent formés, ainsi que le fondateur des jésuites, Ignace de Loyola. Voyez donc qu'il a la chance d'avoir un collège exceptionnel. Ce fut donc le bastion scolastique médiéval, le lieu jouera un rôle politique important dans la bataille idéologique contre François Ier et qui fera lui-même jeter au bûcher l'imprimeur Antoine Angerot, l'imprimeur de Marguerite de Navarre à laquelle Rabelais dédia son œuvre. Marguerite de Navarre, 1492-1549, contemporaine d'Horence Fine, on le sait, est la sœur de François Ier. Elle s'opposera à son frère et surtout elle protégera notre Ronce ainsi que de nombreux savants et poètes. En 1516, à 22 ans, il a déjà une réputation de surdoué des mathématiques et le directeur de ce fameux collège, Maître Gervais, le recrute comme professeur. À 22 ans, il est donc professeur dans un prestigieux collège parisien. 3 ans plus tard, il publie ses premiers livres de mathématiques et d'astronomie, notamment la fameuse Margarita Philosophica. Il commence alors à correspondre avec François Ier, avec lequel il ne tardera pas à se fâcher, d'ailleurs, en 1524, à cause du fait que l'opposition de l'université au Condorcet. Après avoir passé quelque temps en prison, il fera la paix avec François Ier qui, bien évidemment, a reconnu son génie, et François Ier qui savait utiliser les talents, comme savent le faire les gens qui gouvernent, quelle que soit l'origine sociale des génies, il le nommera professeur au Collège Royal, aujourd'hui Collège de France. À moins de 30 ans, il est déjà professeur au Collège de France, le plus grand titre de l'enseignement supérieur dans le royaume de France, et aujourd'hui encore le plus grand titre de professeur dans notre République. Il avait été présenté au roi par l'amiral de Bonnivelle, gouverneur du Dauphiné, qui s'intéressait à ce jeune prodige haut alpin. On observe ici que la mobilité sociale existait donc pour les surdoués dans ces siècles dits obscurs, sans doute peut-être même plus que de nos jours où les jeunes, même les plus doués de France, de la France dite périphérique ou des banlieues, n'ont très peu de chances d'accéder au bon lycée parisien. Mais ceci est une autre histoire. François Ier utilisa notre Ronce dans le Piémont pour préparer les fortifications de Pavie et de Milan. En 1525, il publie à Paris chez l'éditeur Boissevin la première grande carte de France. Donc c'est un Briançonnais qui a publié et fait éditer la première carte de France. Avant, il avait fait éditer une carte du Dauphiné qui est aujourd'hui encore célèbre. Cette même année, il publie la théorie des planètes. Il fut un temps brouillé avec la reine-mère, férue d'astrologie, qui n'appréciait pas les prévisions de l'astronome du Dauphiné. Mais Fine savait faire la paix, savait négocier. Il fut nommé lecteur royal, plus précisément lecteur mathématicien du roi à l'université de Paris. À cette époque, il fabrique la fameuse horloge planétaire que l'on peut encore voir à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. Ce grand travailleur, ce mathématicien de génie, cet astronome, ce cartographe, ce conseiller du roi, a une vie conjugale bien remplie et il a 6 enfants quand il mourra en 1555. Il mourra hélas à 60 ans, épuisé par beaucoup de veilles et de travaux et de querelles. Comme souvent les grands auxquels tout est dû, il semble que François Ier fut peu généreux avec son fidèle conseiller, qui hélas mourut très pauvre, car souvent les savants ne passent pas le temps à faire de l'argent et n'ont même pas le temps de gagner de l'argent. Ils ont souvent un grand désintérêt pour l'argent, seuls les intéressent les affaires de l'esprit. Il n'est pas certain qu'il eut les moyens de s'offrir un voyage à Briançon qu'il souhaitait revoir avant sa mort. Mais la lecture de ses écrits ne laisse aucun doute sur la vivacité de l'attachement qu'il vouait à sa ville natale. Mais revenons à ses travaux, nous comprendrons pourquoi sa renommée couvrit toute l'Europe, pourquoi il correspondit avec les plus grands esprits scientifiques de son temps. Géographe tout d'abord, il invente un procédé pour déterminer les longitudes grâce à la Lune. Sa première grande carte de France peut être admirée aujourd'hui à la bibliothèque de Bâle. Si Briançon y figure pas, la trace du col du Lautaret, d'Annecy, du lac du Bourget y est présente. La vallée de la Durance est très bien figurée. La Durance y prend sa source à Montgenèvre, puis passe par Briançon, l'Argentière, l'obstacle du Pertuis Rostand, aujourd'hui appelé Mur des Vaudois. Puis Saint-Crespin, le Guil n'est pas représenté. Il réalise également des planisphères et mappes-monde où il fait figure de continent antarctique avec une grande précision des longitudes et des latitudes, avant même qu'il ne fût découvert. Et là, il est passionnant de constater que ce grand génie avait déjà suspecter l'existence du continent antarctique qu'il fait figurer sur ses cartes alors que ce continent n'a pas encore été découvert. Il dit que s'il n'y a pas un continent là, l'équilibre de la Terre serait rompu, donc il doit y avoir un continent à cet endroit-là. Mais ce sont les mathématiques qui vont lui apporter une renommée internationale, ainsi que l'astronomie, notamment un cratère de la Lune qui porte son nom depuis 1535. Il mesure 122 km de diamètre. Il correspond avec les plus grands astronomes et mathématiciens de l'époque. On ne les citera pas tous, mais allez voir sur vos encyclopédies et vous verrez qu'ils sont nombreux, les grands mathématiciens de l'époque. Horace Finn meurt donc d'épuisement à 60 ans, écrasé par un immense labeur intellectuel. Tous les savants de l'Europe le connaissent. À Briançon, il faudra attendre longtemps avant qu'une école porte son nom. Et bravo au maire qui a enfin reconnu que cette ville avait accouché d'un génie. Il est vrai que dans son pays natal, nul n'est prophète. Nemo propheta in patria, disaient les anciens romains, et cela est toujours vrai, surtout dans les Hautes-Alpes. Depuis quelques mois, une place à Paris porte son nom, près de l'école normale supérieure à la rue d'Ulm. Reconnaissance tardive pour cet immense savant de Villars-Saint-Pancrace, dont la devise était « Viresit vulnere virtus », le courage reverdi par une blessure.
Merci beaucoup.